à toi et bienvenue sur Voyageurs de demain, le podcast qui te fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Je m'appelle Hélène et je suis la petite voix qui va t'accompagner tout au long du podcast. Dans chaque épisode, je t'emmène à la rencontre d'un voyageur engagé pour te donner des conseils et t'inspirer à voyager différemment. Ensemble, on parle notamment de transition écologique, de voyage éco-responsable, de zéro déchet et de beaucoup d'autres sujets en lien avec l'écologie. Tu retrouveras toutes les notes des épisodes sur le site du podcast, voyageursdedemain.com. Si tu as des questions, des remarques ou que tu souhaites me suggérer des invités, envoie-moi un email à hélène@voyageursdedemain.com ou un message sur le compte Instagram du podcast @voyageursdedemain. J'ai profité de la période du confinement pour proposer des lives sur mon compte Instagram et je souhaite donc partager avec toi un florilège de ces rencontres. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Chloé, qui est la créatrice du blog Boui Boui. Et donc, Chloé, sur ce blog, partage des inspirations pour voyager sans quitter sa ville. Du coup, je vais te laisser la parole, Chloé, et te laisser te présenter un petit peu avant de commencer.
Alors moi, je suis issue du secteur du tourisme. J'ai travaillé plus de 12 ans dans le secteur du tourisme avant de me prendre une grosse claque et donc de revoir un peu les choses et ma manière de voyager, l'imaginaire du voyage, etc. En créant du coup mon blog pour voyager au coin de la rue et redécouvrir ou découvrir mon territoire beaucoup plus local. Voilà.
D'accord, super. Mais du coup, tu as parlé justement de ta remise en question. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Tu parlais de prise de conscience. Moi, ma prise de conscience écologique, elle s'est faite d'une manière assez lente et progressive. Quand j'ai démarré dans cette voie qui est le secteur touristique, c'était une évidence pour moi que c'était un secteur, on va dire, un domaine bisounours, pas qui envoyait des bisous, mais qui était à fort impact positif. Quand je parlais du fait que je travaillais dans le tourisme, c'est à chaque fois, il y avait des sourires, c'était une belle, une belle image pour les gens, etc. C'était un domaine qui apportait des retombées économiques et sociales assez fortes, des emplois aussi, donc voilà, j'avais l'impression d'être dans le bon secteur. Voilà. Et puis même d'un point de vue perso, ça matchait parfaitement avec qui j'étais, avec les valeurs qui étaient l'altérité, la rencontre, la manière de voir le monde différemment, etc. Donc franchement, c'était nickel. Et donc ça, c'était au début des années 2000. Et que ça soit en école, dans les médias ou dans mes premiers boulots, j'ai jamais entendu parler du tourisme avec ses effets néfastes, comme un accélérateur de détérioration environnementale. Tout ça n'existait pas, j'avais jamais lu ça. Ou alors, peut-être que je me mens, je ne sais pas, et que je fermais les yeux, je saurais pas te dire. Mais je dis ça et en même temps, j'avais lu un truc il y a peut-être 8 ou 9 ans, qui m'avait déjà fait un premier choc. Je bossais dans les offices de tourisme en France et à l'étranger. Et je me rappelle donc d'un essai qui s'appelle le manuel de l'antitourisme. Donc déjà, le titre parle de lui-même. Et qui parlait du coup de la conquête démesurée du tourisme, à savoir même ce qu'on appelle... Les itinéraires hors sentier battu, etc., ne favorisent pas, évidemment, Mère Nature. Et il parlait également de tout ce qui était pollution du tourisme, de la standardisation du confort, la disparition de certaines espèces animales, etc. Donc, ça m'avait déjà un peu fait tilt dans ma carrière du tourisme. Mais ce qui a vraiment déclenché, et ce que je disais tout à l'heure par rapport à la claque, en fait, s'est opérée quand j'ai travaillé donc chez Bynative, qui est donc la start-up du groupe Voyageurs du Monde. Je bossais donc dans le voyage du sur-mesure, qui est donc loin de du tourisme de masse, hein, c'est un tourisme plutôt raisonné. Et j'avais pour mission d'accompagner les agences de voyage locales, donc les agences qui sont à l'étranger, qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on a un tourisme normal, et donc de les accompagner dans la mise en vente de la destination, co-créer des nouveaux itinéraires avec eux, de tester et de mettre en avant des activités. Donc ça, c'était cool, c'était sur le papier. C'était beau, c'était franchement le job rêvé pour moi. Et un jour, on m'a envoyé en mission professionnelle, en déplacement, et je suis partie en Islande. À l'époque, c'était le moment où l'Islande, cette destination sublimissime, subissait le tourisme, avait un vrai boom touristique. On est là en 2016, je crois, quand je suis partie. Et donc, en très peu de temps, ils ont quadruplé, je crois, leur flux de touristes sans pour autant avoir les structures, les infrastructures, les plateformes d'observation, etc., pour accueillir autant de touristes d'un seul coup. Et donc, l'agence qui m'a accueillie, à qui je fais coucou s'ils sont là, parce que c'était top, m'a montré, m'a fait un petit tour d'horizon de l'Islande. Et là, sur le terrain, j'ai pris cette claque du principe du surtourisme. J'ai vu des cars remplis de touristes se déverser dans la ville de Reykjavik, de se garer n'importe où sur le bas-côté de la route. Et j'ai surtout vu, et là c'est la première fois, que je voyais les dégâts que faisait Instagram à une destination. Je m'explique. J'avais en face de moi je ne sais combien de touristes internationaux, hein, je ne fais pas de préjugés de quoi que ce soit, avec leur téléphone, sans regarder où ils marchaient, ils étaient là juste avec leur téléphone, à vouloir impérativement prendre la même photo qu'ils avaient vue sur Instagram et à piétiner tout un site naturel, essayer de dévier, de contourner des petits chemins pour aller vraiment derrière la cascade qu'ils avaient vue, etc., pour prendre la même photo qu'ils avaient vue sur Instagram. Et là déjà, ça a été un choc de la manière de voyager et de prendre en compte le voyage, d'instantanéiser le voyage. Et ça a été un choc dans mon implication en tant que professionnelle du tourisme. Je faisais la promotion de cette destination. Je travaillais conjointement avec l'agence pour montrer ça, pour montrer ce site, en l'occurrence c'était Gullfoss, je crois, c'était une grosse cascade très belle, mais je donnais à voir le cercle d'or comme tout le monde voulait le voir. Au secours. Et là ça a vraiment été la claque et le déclic de ma manière de voir le tourisme différemment. J'avais la sensation étrange quand on était avec l'équipe en road trip de tu vas me prendre pour une folle, mais d'avoir cette terre islandaise qui me faisait un procès. Voilà, qui me disait, mais pourquoi ? Voilà, et je participais en fait à ce tourisme de masse, inconsciemment, même avec mon tourisme sur mesure, etc., je participais à ça. Et donc, au retour, je me suis énormément questionnée, j'ai voulu rentrer en bateau et pas en avion. Enfin, voilà, j'étais vraiment choquée. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à rendre mon rapport de déplacement. Et j'ai voulu, à mon échelle, changer ma manière de voyager et de mettre différemment les destinations, pas que l'Islande, les destinations en avant. Voilà. C'était un gros sujet.
Et du coup, tu as commencé déjà dans ton travail à présenter les choses différemment. Et comment ça a été perçu par les gens avec qui tu travaillais ? Et tes employeurs ?
Alors, en fait, ça a été petit à petit. En interne, j'étais donc dans une start-up, donc je me disais que c'était le bon endroit pour faire les choses et de changer un peu le paradigme, donc c'était bien. Là-dessus, ça s'est fait petit à petit. On a eu par ma prise de conscience, hein, sincèrement, j'avais plein de collègues qui étaient très concernés par, par l'environnement. Et on a commencé à faire, par exemple, une adhésion à ATR, qui est Agir pour un tourisme responsable, avoir une charte associée à tout ça, à comment on peut améliorer les choses avec les agences de voyage, etc. Il y a eu aussi des effets sur les itinéraires pour mieux comprendre en fait les réalités terrain, les enjeux touristiques par rapport voilà, si on prend trop de douches dans un pays déjà qui est déserte où il y a déjà un problème d'eau, ben c'est un souci. Donc voilà, c'était intéressant de voir ça avec les équipes locales. Mais bon, on revient toujours aux mêmes choses, à la rentabilité du tourisme aussi et au fait qu'il faut faire des pépettes. Voilà. Mais en fait, ce choc et ce déclic a été plus important, enfin, l'impact a été plus important d'un point de vue personnel, en fait. J'ai stoppé les voyages long courrier. Moi qui étais... J'allais tout le temps en voyage depuis très longtemps. J'ai continué à voyager, hein, sans souci, mais moins loin, moins souvent. Et puis, j'ai favorisé, à défaut de prendre l'avion, j'ai favorisé des transports alternatifs, comme le train, le bateau ou même la voiture. Donc, voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai reconsidéré finalement mon territoire comme un ailleurs. Voilà. Du coup, ma rue, mon quartier... mon arrondissement et puis plus largement Paris et l'Île-de-France, c'est devenu mon petit terrain d'exploration. Voilà, j'étais toujours en quête d'exotisme, j'avais soif de dépaysement et donc je me suis mise en condition, en condition, c'est-à-dire que j'ai lâché le sac à main de ville, j'ai pris mon sac à dos, j'ai mis dans le sac à dos l'appareil photo, la gourde, le plan de Paname, un bouquin, et puis go, je me suis lancée. Je me suis lancée à vélo, à pied, en prenant le métro, en prenant, je sais pas, le bus, voilà. Et je me suis surtout donné aucun itinéraire, aucun... Je me suis laissé le temps, voilà. J'ai pris le temps, j'ai ralenti, je me suis dit, ok, le temps d'une journée, tu vas voyager et c'est parti. Et ça a bien marché, puisque j'ai observé le réel, j'ai flâné, j'ai arpenté un arrondissement de fond en comble. j'ai essayé du coup de comprendre en fait ses contours, de voir que finalement ben un arrondissement ça a aussi des frontières, de comprendre pourquoi il y avait eu ces frontières, est-ce qu'il y a vraiment une frontière entre ce trottoir et le trottoir d'en face, voilà. Et puis je me suis rendu compte et vraiment amusée de voir que je retrouvais des sensations qu'on a quand on part en voyage, et des sensations telles que le lâcher prise, la prise de risque, la peur de l'inconnu et même la barrière de la langue. Alors que j'étais chez moi, enfin j'étais à Paris. Donc ça c'est assez amusant. Faudrait que je t'envoie une photo, mais j'ai un souvenir en particulier où c'était l'un de mes premiers voyages en fait. Où je suis partie dans le quartier de la Goutte d'Or, qui est déjà un quartier, on va dire, animé, coloré, etc. Donc, je savais où je mettais les pieds, je le connaissais déjà un peu. Et je venais de papoter pendant une plombe avec un monsieur qui tenait une boutique un peu insolite, qui est un poulailler. Je me rappelle plus de la rue, je crois que c'est la rue Mira, mais je suis pas certaine. Et donc j'ai parlé pendant longtemps avec ce monsieur qui m'expliquait pourquoi il y avait des poules et plein d'autres oiseaux comme ça dans la rue. Et puis un peu plus loin, je marche et il y avait une friche, un jardin partagé. Et puis j'essayais de regarder si je pouvais pousser la porte et aller dans ce jardin. Et là, en fait, comme j'avais rien prévu dans la journée, j'ai laissé, on va dire, la place à l'imprévu. J'ai rencontré une dame qui m'a pris la main quasiment et fait découvrir ce jardin qui était le sien, mais qui était aussi celui d'autres. Et c'était une dame roumaine qui parlait pas très bien français, mais qui était fan de son quartier et qui, pendant 4 ou 5 heures, m'a fait découvrir son jardin et tout un petit pan de son quartier. Et là, c'était royal, c'était le voyage comme je l'avais imaginé, imprévu, insolite aussi. Là, j'ai été confrontée aux barrières, la barrière de la langue parce qu'on a fini en anglais. Elle, qui normalement vit à Paris depuis hyper longtemps, on parlait anglais, elle était roumaine, moi française, et hop, c'était parti. Voilà, j'ai écrit sur cette journée, et après, je me suis dit, c'est parti, il y a un truc à faire.
Ouais, c'est excellent. C'est vraiment la
Ouais. Et...
rencontre avec l'autre, en fait. Tu changes de
Bah, c'est
posture
la...
et
Oui, c'est la rencontre. Alors, c'est deux rencontres, je crois. C'est la rencontre avec toi-même, parce que t'es comme ça. Enfin, moi, je suis comme ça en voyage. J'accueille l'imprévu, j'accueille le fait que... Ah bah oui, il y a une rencontre à l'ego, je suis. Mais c'est, oui, aussi la rencontre avec les autres, c'est sûr. Voilà. Mais faut... je crois qu'il faut se mettre en condition pour ça, un peu. Ouais. Ou avoir ça dans le sang.
Et du coup, tu aurais des conseils pour se mettre dans cette posture aussi? Qu'est-ce que tu peux conseiller?
Ben, de rien prévoir de sa journée, premier truc. De se dire, ben voilà, je pars, on ne sait pas quand je reviens et point. Du coup, ça t'amène forcément à avoir à goûter le temps différemment, à suspendre en fait le temps un peu. Parce que ben, on est quand même dans des vies urbaines où on est toujours. À prévoir les choses, à être un petit peu dans, voilà, dans la surconsommation de choses. Ah oui, alors attends, parce que là, j'ai un cours de yoga, et puis ensuite, je dois aller faire des courses, et puis je reçois des potes à la maison, mais en fait, avant, il faut que je fasse une recette, et bref. Donc voilà, donc là, non. Basta, cosy. Tu prévois rien. Et du coup, d'être dans la posture de flâner. De flâner vraiment comme un promeneur. De se dire, ah bah, allez. Je vais me perdre, j'ai regardé autrement cette rue que je connais par cœur. Tiens, bah, je prends toujours ce trottoir, je vais changer de trottoir. Voilà, de changer ses habitudes, finalement. Et quoi d'autre que je peux donner comme conseil? Bah, d'oser. D'oser aller vers l'autre, d'oser parler. Rien qu'un truc, c'est. On vit dans une grande ville, enfin, en tout cas moi. Dire bonjour à des inconnus, on verra que ça fait tomber les masques très vite. Voilà, donc rien que ça. Et après, bah, oser pousser les portes. Moi, je suis très axée sur la bouffe, donc les bouis-bouis, oser pousser une porte d'un bouis-bouis. Et le fait de parler de nourriture, ça délie de suite les langues, en fait, très vite. Voilà. Ça, c'est les petits conseils.
Super. Bah, du coup, tu as parlé de Bouiboui, ça me fait penser forcément au nom de ton blog. Est-ce que tu peux
Oui.
nous expliquer un peu comment ce projet est né? Et même, bah, comment est-ce que ça a changé ta vie professionnelle et qu'est-ce que tu fais maintenant en fait?
Ouais. Bah merci pour la question. Bah, j'ai lancé Bouiboui, donc une invitation à faire un tour du monde en bas de sa rue, avec comme fil conducteur la nourriture, parce que c'est quelque chose, je trouve, c'est un prisme qui est. Bah déjà, on mange tous 2 à 3 fois par jour dans le monde entier, plus ou moins. C'est quelque chose qui rassemble, et qui est, dès l'instant où on voyage, c'est une manière de comprendre la culture dans laquelle on est. Le blog s'appelle Boui Boui aussi parce que c'est une ode à toutes ces gargotes et cantines que j'adore en voyage et que finalement on trouve ici. Et j'ai démarré en fait ce blog parce que j'étais en transition professionnelle, que j'arrêtais de voyager par le biais du boulot. Et je me suis dit, bah voilà, t'as ton passeport dans le tiroir, tes tickets de métro peuvent finalement être faire semblant et être des tickets des billets d'avion, quoi, au final. Donc j'ai démarré ça comme ça, petitement au départ, en me disant, ouais, personne ne va me lire. Et j'ai vu très vite qu'il y avait d'autres farfelus comme moi qui avaient envie d'être dépaysés pas loin et que finalement les bouis-bouis plaisaient. Voilà. Donc sur le blog, on trouve aussi bien des chroniques de restaurants que des idées de pour se balader dans Paris, des balades culinaires, des portraits aussi. Je suis très intéressée par l'autre. Donc voilà, il y a des portraits, des parcours de vie, des bouquins aussi qui permettent de s'évader, puis des recettes parce que je sais que les gens aiment bien cuisiner, donc c'est l'idée. Voilà. Et donc il y a un onglet dans Boui Boui qui s'appelle Voyager autrement, qui risque d'intéresser pas mal de monde du coup, et qui parle donc de comment voyager juste en restant dans sa ville, voilà, ou sa nation en fait. Voilà. Pour l'instant c'est principalement à Paris, mais voilà, 2020 normalement Boui Boui devait voyager beaucoup plus. Et donc ça a été un peu chamboulé, et pour tout te dire, j'essaye de monétiser le blog depuis quelques mois maintenant. Avec le Covid, ça a été un petit peu chamboulé. Je voulais organiser des visites guidées à travers le prisme de l'assiette, à travers les migrations aussi, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment un quartier évolue par rapport à ses migrants et à qui habitent ce quartier. Et donc voilà, avec des sorties de resto, avec des escales aussi, un peu dans le Grand Paris. Mais bon, ça, on va être un peu patient et on va attendre un petit peu encore.
Et du coup, j'ai bien aimé ce que tu disais sur, tu vois, comment dire, faire découvrir les quartiers sous le prisme des migrations. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ?
Ouais, comme je disais, j'habite Paris, je suis à côté de Belleville, donc c'est un quartier qui est plutôt multiculturel et qui a comme un oignon plusieurs strates, plusieurs plusieurs pelures, voilà, qui est riche d'histoire et qui est aussi hyper contemporain parce que c'est toujours en évolution. Et donc à Paris comme en Île-de-France, on a un apport hallucinant de ces migrations, en fait, qui sont là depuis très longtemps, ou pas, d'ailleurs. Il y a de nouvelles migrations qui se font avec l'Érythrée, le Soudan, etc. Allez voir, d'ailleurs, la super balade sur le Soudan à Paris que j'ai fait. Mais voilà, bref, je trouvais que c'était bien, surtout en ce moment, avec depuis des années maintenant, on a un gros débat sur ces migrations qui sont de plus en plus visibles dans nos villes et qui, à mon sens, sont une richesse. Et il ne faut pas avoir peur de l'autre, il faut aller vers l'autre. Et donc, c'est ce que j'essaye d'amener, en fait, via ces balades. Alors oui, il y a toujours le prisme de la cuisine, mais ça va bien plus loin, au final, dans cette curiosité des migrations. Voilà. Et je vais essayer de le développer davantage parce que je vois que ça plaît. Je sais aussi que les offices de tourisme comme le 93 ou le Val-de-Marne sont aussi ont compris qu'il y avait quelque chose par rapport au tourisme de proximité qui est donc dédié à ses habitants et dont finalement leur territoire est riche de toutes ces migrations et de ces strates-là. Voilà. On va parler de Chili dans le Val-de-Marne. Là, bientôt sur le blog, vous allez voir aussi que je suis partie à Bobigny pour rencontrer la communauté sikh et manger dans une des plus grandes cantines communautaires. Donc voilà, c'est des choses que j'essaye de faire et de communiquer et d'insuffler via le blog.
Tu as évoqué le tourisme de proximité. Ben, tout ce que tu as expliqué, ça rejoint ça, mais est-ce que tu peux le définir un peu plus ?
Ben, en fait, c'est un tourisme alternatif. Qui s'inscrit finalement dans une autre tendance qui est que tu as déjà évoqué dans d'autres podcasts ou live, qui est la tendance du slow tourisme et qui consiste en fait à rester près de chez soi en prenant le temps, en ralentissant, en prenant le temps de découvrir, de vivre des moments et d'expérimenter des choses qu'on a finalement sous notre nez. Et plus, on va dire, d'un point de vue plus pro, le tourisme de proximité, c'est une cible du coup envers les habitants eux-mêmes. Et donc c'est un rayon de 100 km autour du domicile. Voilà, c'est assez proche. Mais ça nous laisse du coup le choix, parce que 100 km, c'est quand même loin.
Ouais, c'est vrai, il y a du choix.
T'as déjà
Surtout quand,
essayé,
dans
toi,
un pays
Hélène?
comme la France. Oui, mais enfin, enfin, au
À
Japon,
Tokyo.
donc.
C'est un tourisme de proximité qui est ta
Oui,
proximité au final.
c'est ça. Donc ça me va bien, ouais. Et où j'habitais avant, j'habitais en Angleterre avant, pareil, c'était sympathique. Est-ce que tu aurais une balade pour quand le Covid sera fini? À recommander aux Parisiens peut-être qui sont là pour découvrir Paris autrement.
Eh bien, j'ai des manques, évidemment, hein, pendant ce confinement, hein, ce repli à la maison, même si j'essaye de revoir un peu mes limites dans l'appart. Oui, une balade qui me tient à cœur de réaliser, en fait, c'est une balade que je fais tous les samedis. Donc, il y a beaucoup de, comment dire, de cœur à l'ouvrage. C'est La Chapelle et Marx-Dormois, qui est donc une balade un peu tour du monde, parce que c'est anciennement un quartier tamoul, donc du Sri Lanka et de l'Inde du Sud. Et c'est en train un petit peu d'évoluer, puisqu'on voit de plus en plus, là, depuis quelques années, des Tibétains et des Népalais qui sont dans le quartier. Et donc l'idée, c'est de vous emmener en balade dans ce quartier entre le métro La Chapelle et le métro Marx-Dormois, où en fait, à travers la cuisine, des sites même religieux, on va parler du Sri Lanka, de l'Inde du Sud, du Soudan, et pourquoi pas de la Thaïlande au bout à Marx-Dormois. Voilà.
Est-ce que d'ailleurs tu penses que ce qui se passe avec le Covid, ça va impacter un peu notre manière en général d'envisager le voyage?
J'espère. Secrètement, j'espère. En fait, l'impact réel, il est dur à jauger, parce que pour le moment, on n'a pas vraiment de visibilité, ni du déconfinement, ni de la reprise du tourisme, rien du tout. Par contre, comme à chaque crise qu'on a pu voir, ou même dans l'histoire, il y a toujours une petite fenêtre. Qui fait naître de nouvelles idées, en fait, après les crises. Du coup, j'ai espoir, bon espoir, qui est effectivement une autre manière de voir le tourisme, une autre manière d'envisager notre mobilité et notre imaginaire du voyage. Et on le voit, en fait, déjà. Moi, je suis encore bien attachée au tourisme encore ce matin, je lisais des newsletters. Et par exemple, à Venise, il y a le calme qui est revenu, les eaux qui redeviennent cristallines dans les canaux. Et donc, il y a tout un collectif d'habitants qui ont demandé à la ville de repenser le tourisme, de revoir en fait les incomes, les investissements liés au tourisme, pour repenser ensemble l'aménagement de la ville, avec du coup éviter de livrer des, enfin de donner des comment dire, des boutiques pour des souvenirs et de favoriser le retour des artisans, de favoriser aussi le retour des familles dans le centre-ville pour qu'il y ait moins d'appartements Airbnb, etc. Et ça, c'est des choses qu'on voit vraiment dans plein d'autres villes. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qui était déjà un peu latent, mais avec le Covid qui est d'autant plus grand. Même là, sur Facebook, il y a un groupe qui est assez décloisonné, qui a aussi bien comment dire, des professionnels du tourisme, des habitants et plein d'autres gens qui sont en train de faire un think tank du tourisme. Je t'invite d'ailleurs à le rejoindre, qui
s'appelle... Ah oui, c'est quoi comme groupe?
Faut que je retrouve, je crois, ça s'appelle Demain le tourisme. Quelque chose comme Demain, trois petits points, le tourisme. C'est ouvert à tous. Et donc, on est en train de réfléchir, je me suis inscrite, et on est vraiment en train de réfléchir à plein de problématiques, à comment envisager le tourisme autrement de demain. Et tout ça en 20 jours, enfin jusqu'au 11 mai. Voilà.
C'est super intéressant, je vais aller voir ça.
Ben ouais, je t'invite, franchement, c'est... Mais de mon côté, je me dis que là aussi, le confinement, le fait d'avoir du temps pour réfléchir, j'étais déjà dans la démarche avec Bouiboui à promouvoir un tourisme qui est là, qui est de proximité et qui est sous notre nez. Et ben, y a une vraie carte à jouer, au final, avec le Covid, on est tous... confinés à la maison, on a tous envie de ressortir bientôt. Je pense que les frontières, elles vont pas s'ouvrir de suite. Donc, on va devoir redécouvrir la France. Et heureusement, la France est belle, diverse, séculaire. Et on a plein de choses bonnes à manger. Donc, y a de quoi.
C'est vrai qu'il y a une vraie diversité en France. Quand on voyage un petit peu, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de vagues migratoires, justement, qui ont apporté une richesse culturelle, et puis même les paysages, la variété qu'on a, on a de la chance.
Ah, c'est sûr. Mais je pense au Japon aussi. Hein.
Ouais, j'avoue. Après, il y a moins de mixité, ouais. Mais après, les paysages, c'est vrai que c'est un pays magnifique, j'avoue. Magnifique. Et la culture aussi. Moi, j'adore l'Asie, donc...
Pareil. Ouais.
Mais la technique, sinon, c'est de déménager. C'est de déménager à l'autre bout du monde et de faire du tourisme de proximité dans un autre pays.
C'est ma technique. Oui, parce que quand j'ai discuté avec toi, je t'ai dit « Ah bah alors attends, comme tu es au Japon, profites-en pour aller à Taïwan. » Et c'est vrai que bah, ça, c'est un de mes derniers coups de cœur. Taïwan, il faut... C'est mon chouchou. Voilà.
Attends.
Donc prochainement aussi, en suivant Bouiboui, il va y avoir beaucoup de Taïwan sur le blog, des cantines taïwanaises.
Un truc que j'ai bien aimé aussi, que j'ai découvert, je t'ai découvert d'ailleurs par rapport à ça, c'était suggestions de lecture. Est-ce que tu aurais déjà plus des inspirations pour voyager à travers les livres, des dernières choses que tu as lues à nous recommander?
Gros coup de cœur qui m'a fait mourir de rire, c'est, je l'ai là, je prends mon anti-sèche, Tour de France des villes incomprises.
Ah, d'accord.
Et c'est de Vincent Noyou, j'enverrai si tu veux la liste.
Ah,
et c'est un livre de poche donc qui, moi qui m'a fait vraiment rigoler, c'est décalé. En fait, tu pars à la découverte de 12 villes comme Guéret, Cergy, Saint-Nazaire, Mulhouse, voilà, des villes qui sont pas vraiment comment dire, alléchantes, on n'a pas trop envie d'y aller. Et puis on a surtout des gros a priori par rapport à ces villes. Et en fait, l'auteur nous embarque dans cette pérégrination de toutes ces villes et finalement donne envie d'aller à la rencontre de ses habitants, du port de Saint-Nazaire. Je me suis régalée. Et ça donne vraiment ça donne l'impulsion de se bouger en France et d'aller voir et de casser nos clichés en fait par rapport à certaines villes qu'on boude. Voilà. Donc ça c'est le premier premier livre que je conseille. Qu'est-ce qu'il y a, un autre bouquin, alors là qui est plus qui est à cheval entre un guide et un récit de voyage et qui parle du coup de slow tourisme, donc ça va sûrement t'intéresser. Peut-être tu le connais, ça s'appelle Slow Train. C'est en anglais, mais en fait, c'est français. Hein.
Non.
C'est une nana française qui est partie... c'est une journaliste qui est partie faire des échappées en France en prenant le TER et le train corail, puisque la SNCF a remis au bout du jour ces trains corail depuis quelques années. et elle nous donne en fait ses recommandations de petites lignes ferroviaires qui donnent vraiment envie d'être prises. Et notamment, elle donne ma ligne préférée de TER, qui est entre Bordeaux et Le Verdon. Donc on traverse le Médoc, les vignes, etc. Et on arrive donc tout au bout entre l'océan et la Gironde. C'est un chouette bouquin qui donne envie de ralentir et d'être dépaysé en France. Et dans d'autres ressources, et c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai trouvé. C'est comme ça que je t'ai connue. Et donc, pour parler un peu plus de transition, mais plus générale et pas que sur le tourisme, il y a Imago, qui est une plateforme vidéo et audio que je conseille vraiment à tout le monde parce que c'est plein d'inspiration et ça donne envie d'agir autrement. Voilà.
Et en plus, c'est gratuit.
Et en plus, pour l'instant, c'est gratuit.
Tiens, puisque tu aimes bien la bouffe, c'est quoi ta spécialité préférée alors? C'est dur. Hein.
Bon, c'est très dur. Je suis une dingue de pâtes, quelles qu'elles soient. Les pâtes italiennes, les nouilles asiates, voilà. Mais je vais être très honnête, en ce moment, ce qui me manque le plus, c'est des spécialités thaïlandaises. Parce que je te parlais de Marx Dormoy tout à l'heure, j'ai un rituel. Tous les week-ends, je vais dans une petite cantine qui s'appelle la Maison Thaï, qui est un truc ridiculement petit. Vous pouvez retrouver la chronique sur mon blog. Et en fait, qui me fait voyager tous les week-ends pour un menu à 4,50 € seulement. Et ça me manque énormément. Voilà, c'est le lap de porc, le lap de poisson, le hamok, tout ça me manque énormément. Et en plus de ça, je n'ose pas le faire à la maison. Je me suis déjà essayé à cuisiner ça. Ça ne me fait pas autant chavirer et autant voyager, donc j'ai arrêté.
Il y a peut-être le lieu et l'ambiance aussi hein, qui joue.
Exactement, il y a ça. Et Lairat, qui est donc la restauratrice, je l'ai eu encore il n'y a pas longtemps au téléphone. J'ai essayé de lui dire, mais appelle-moi absolument, je veux avoir la recette. Ou quand est-ce que tu réouvres? Et donc, c'est pas de suite, mais voilà, pour te dire que ça me manque énormément.
Écoute, on va bientôt finir. Est-ce que pour finir, tu aurais le mot de la fin ou un message à faire passer ou quelque chose d'autre à dire?
Non, le mot de la fin, déjà, je te remercie, toi, Hélène, de m'avoir conviée à ce live. C'était mon premier live.
Waouh! C'était avec plaisir.
Ah ouais, moment partagé, très bien. Et non, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Allez cliquer sur mon blog pour vous intéresser à comment voyager autrement et à essayer d'envisager Paris et l'Île-de-France comme un véritable ailleurs. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui vont débouler là, dès que le Covid va arrêter de m'enquiquiner. Donc, notamment des maps, des cartes pour voyager dans Paris différemment.
Et puis des balades avec toi, j'imagine.
Et des balades, effectivement, qui sont prochaines. Et si on se balade pas tous ensemble en vrai, dans tous les cas, je ferai autrement pour écrire ou nous balader toute seule avec mon téléphone et le partager.
Super. Écoute, merci beaucoup à merci. Toi et merci à tous d'être venus. C'était très chouette comme discussion. J'espère que ça a inspiré tout le monde et ça vous a donné des idées pour la sortie après.
Et encore merci Hélène parce que je trouve qu'il y a encore peu de gens qui s'intéressent à la transition, oui, mais la transition par le tourisme, assez peu. Donc je te remercie de prendre ce temps et de donner la parole à ceux qui veulent envisager un tourisme plus raisonné, voilà, et engagé.
Ouais, je pense que ça change.
Ouais. Oui, ça commence, c'est bien.
Super. Bon. Ben, merci à toi.
J'espère que cet épisode t'a plu. D'ailleurs, tu peux me le faire savoir en t'abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ce projet. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté sur Instagram pour continuer nos échanges. À la prochaine !